sûr.
Je voudrais d'abord remercier Anselm Kiefer de m'avoir invité lors de son séminaire.
Je vous ai invité dans votre propre maison.
Oui, ben, c'est tout de même une invitation. Je suis très, très fier. On peut d'ailleurs se demander pourquoi un historien de l'art est invité par un artiste. Mais enfin, ça, c'est une question à laquelle on répondra peut-être au cours de l'entretien.
Oui, mais vous savez, le titre, c'était « Le conflit d'angle de l'ordre dorique ». Alors, c'est bien d'avoir un spécialiste ici.
Oui, c'est là que vous avez fait l'erreur, parce que je ne suis pas un spécialiste.
Ça durait un moment jusqu'à ce que j'ai vraiment compris le problème, là. Alors.
Bon. Alors, en vous écoutant, en écoutant votre leçon sur le conflit d'angle, j'ai simplement déjà relevé un certain nombre de thèmes que vous avez abordés. Je voudrais commencer par là. Toute la question de la briqueterie, c'est-à-dire de ce lieu de production, l'instance de production de la brique, de cet élément finalement modulaire, basique si l'on veut, de la construction. Ensuite, la question du conflit d'angle que vous avez tracé en effet dans ces grandes lignes. Puis le nombre pi. Comment le nombre pi est devenu soudain une sorte de métaphore de l'art. La mer, ou d'abord les plans des chambres d'hôtel et ensuite la mer, ou d'abord la mer et ensuite les chambres d'hôtel, c'est-à-dire l'élément liquide, chaotique, indéterminé, et l'élément au contraire parfaitement maîtré, un relevé, la planimétrie de ces espaces privés, un temps, un jour, deux, trois jours dans un hôtel. Voilà, donc je crois que ce sont les principaux axes, sans oublier le dernier, qui concernait l'art conceptuel, disons les choses comme ça. Vous êtes passé à un moment donné.
Les géométrisations de la femme.
Oui, mais non, j'y viens. Parce que ça, c'était vraiment la conclusion. L'art conceptuel.
Tout ce que nous fait peur, on la géométrise, hein, c'est toujours comme ça.
Voilà déjà une réponse partielle à mes questions. Oui, donc cette question de l'art conceptuel sur laquelle je voudrais revenir tout à l'heure, parce que ça m'a toujours fasciné de voir avec quel intérêt vous suiviez, vous interrogiez les artistes conceptuels, vous les convoquiez même dans vos cours ici, dans vos séminaires, et rien n'est plus opposé en apparence à vos images, à vos œuvres, que l'art conceptuel. Ça, on pourra aussi, si vous voulez bien, en parler tout à l'heure. Je voudrais profiter de l'hospitalité que vous me donnez dans votre séminaire, en profiter vraiment, c'est-à-dire me permettre un souvenir personnel qui est très important dans le parcours que j'ai fait comme directeur des musées de Strasbourg, puisque c'est en juin 1988 que nous nous sommes rencontrés.
Et on était encore jeunes. Hein. Imaginez-vous, ça fait combien? Ça fait 30 ans, non?
Ça fait 24 ans.
23 ans.
Non, c'est très loin. C'est très, très loin. Oui. Et à cette époque, d'abord, je vous ai écrit ou téléphoné, je ne sais plus très bien, et vous m'avez très gentiment invité dans votre atelier qui était établi à Bourne, donc dans le Bade-Wurtemberg. Et je suis allé vous voir. Nous avons passé ensemble quelques heures qui sont pour moi inoubliables. Les expériences d'atelier d'artistes sont d'ailleurs, je crois, d'une façon générale, des expériences inoubliables, mais celle-là est sans doute la plus inoubliable. Et pour en témoigner, simplement, même si ça ne donne aucune idée de l'expérience de l'espace que l'on peut faire en entrant dans l'atelier d'Anselm Kiefer en 1988, j'ai quelques photos ici. Anselm prétend que je les ai prises clandestinement, moi je prétends que non, il m'y avait autorisé. Donc il y a ici quelques photos de cet immense atelier qu'il avait là-bas, mais qui, je trouve, d'une certaine façon, est relativement petit par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui à Croissy ou à Barjac.
Vous voyez, là, il y a le tableau par hasard. où j'ai mis après l'avion.
À gauche, oui.
Oui, oui.
L'avion, on le verra.
Oui.
Ah,
oui.
Dans une autre photo. Voilà, c'est ça. Alors, donc, ce sont des tableaux en cours de création, des travaux en cours. Alors, ça, c'est simplement pour donner, alors, vraiment pour donner une idée de l'atmosphère, puisqu'il y a une brouette au premier plan. Et entrer là, c'était pour moi non seulement prendre la mesure du travail de Hans Kiefer, que je connaissais quand même un peu, mais c'était aussi prendre la mesure de ce qu'était l'organisation, j'y insiste beaucoup, de l'espace de production, du lieu dans lequel l'artiste se déploie. D'ailleurs, il se déplaçait d'un endroit à l'autre, parfois avec une bicyclette, hein, tellement l'espace était grand. Et je pense que c'est aussi c'était l'image même de la manière dont fonctionnait l'esprit du peintre, l'esprit du créateur, d'aller d'une chose à l'autre, comme ça, et de réunir des images pour lui mentalement et qui aboutiront ensuite à des tableaux. Ça aussi, ce petit bassin, on l'a vu dans des photos avec des mises en scène autour du bassin.
Il y avait Klebnikov là. Oui. Un travail sur le poète russe Klebnikov, oui. J'ai utilisé ce bassin pour ça.
Voilà. L'avion. Alors ça, c'était ces grands chariots sur lesquels il y a des étagères avec
des photos
posées les unes sur les autres. C'est des strates. Là, on a vraiment la stratification.
Vous voulez que j'explique ?
Oui, peut-être.
Ah
oui.
Bon. Alors ça, c'est une bibliothèque de livres de plans. Et dans chaque page, il y a un dessin ou une photo ou une peinture. Mais on ne peut plus les voir parce que... On peut les voir, mais normalement pas parce que chaque livre, ça va être 300 kilos. Et c'est difficile de les sortir, de les remettre. Alors, ce sont des dessins perdus. Alors, c'est très bien d'avoir des dessins perdus.
Et alors, nous avons donc passé cet après-midi à parler. Vous avez donc expliqué tout ce que vous êtes en train de faire. Et moi, j'étais venu, en fait, pour vous demander de participer à une exposition. L'exposition qui a eu lieu quelques mois plus tard sous le titre de Saturne en Europe, dont voici la couverture du catalogue. Et dans cette exposition, Hans Kiefer a présenté, c'est une exposition collective, je le précise, sur le thème de la mélancolie dans l'art, disons en gros du dernier tiers du XXe siècle, avec un certain nombre d'artistes, que voici. Et Hans Kiefer a présenté une immense installation qui occupait un très grand espace sous le titre Saturnzeit en 17 tableaux et 9 livres. Donc c'était le temps de Saturne, jouant d'ailleurs sur les mots, puisque le thème saturnien que j'abordais dans l'exposition, c'était le thème de la mélancolie, donc de la bile noire, etc. etc. Et Hans l'avait formulé plutôt par rapport à celui qui mange ses enfants, donc le dieu du temps. Alors voici quelques exemples de ces livres qui étaient exposés dans l'exposition. À moins que vous ayez envie d'en parler, mais sinon
on continue.
Voilà, quelques détails. Ça, c'est un extrait de Bilderstreit.
Oui, c'est la palette en débris. Qui était attaqué par des tanks, les tanks qu'on ne voit pas ici, et c'était l'iconoclasme.
Voilà, donc la palette cassée par ces tanks. Ça, c'est Gilgamesh.
Oui, ça, c'est Gilgamesh et Enkidu im Zedernwald. À gauche, c'est moi. À droite, c'est mon assistant.
Et la forêt de cèdres, ce sont des bouleaux. En fait.
Oui, c'était j'ai mis une forêt dans mon atelier. J'ai coupé les arbres dans la forêt, puis je l'ai mis dans mon atelier. Et j'ai fait l'action que Gilgamesh avait fait.
Ça, c'était le Rhin.
Oui, c'est une gravure en bois, c'est le Rhin.
Qui était un des livres, donc voilà, j'ai donné juste trois exemples. Ouais. Un de ces livres au nombre de 9 ouverts donc, dans l'exposition. Et puis un des tableaux, Ninive.
Ninive, oui. Ouais. C'était le. Alors, la petite maison là, c'est ensevelie par le sable et il y a une onde qui va au-dessus, l'onde de l'histoire ou l'onde du Saturne aussi.
Donc voilà, cette exposition a été. Enfin, en particulier, l'installation de Anselm Kiefer a été analysée en particulier par Schuster dans son grand livre sur la mélancolie de Dürer, où il disait le caractère très spécifique de l'engagement de Anselm Kiefer dans cette exposition, qui n'a pas simplement prêté des œuvres le temps d'une exposition, mais qui s'est vraiment engagé dans la thématique elle-même. C'est comme ça que je concevais à l'époque, en tant que commissaire d'exposition, le travail du commissaire. C'est pas d'imposer un cadre dans lequel on fait entrer ensuite des artistes d'une manière plus ou moins artificielle, mais de donner un thème à partir duquel un artiste peut s'engager ou non à participer à cette manifestation. Donc moi, j'ai été à l'époque extrêmement content, pour ne pas dire heureux, de cette collaboration dans le SEM qui fait que c'est passé dans des conditions assez étranges. Les autres artistes venaient passer plusieurs jours pour installer leurs œuvres. Anselm est arrivé un soir à 10h, 10h30, et il a installé son installation jusqu'à 2h du matin, je crois, c'était terminé, il est parti. On n'a jamais revu pendant toute l'exposition, bien sûr, mais c'était une manière très merveilleuse enfin, de mettre en place cet ensemble sur le thème de Saturne entre 10h du soir et 2h du matin.
Oui, ça va très bien, oui.
Ça allait tout à fait bien. Alors, bien, alors, en fait, toute cette question, tout ce que je viens de dire, c'était pour insister sur l'expérience de l'atelier. Cet atelier qui me paraissait à ce moment-là, et j'en ai encore eu la confirmation en visitant sous votre conduite Croissy, l'atelier de Croissy, se présente comme un immense dispositif fictionnel. C'est-à-dire que l'atelier lui-même est déjà un tableau. C'est un tableau dans lequel des tableaux prennent naissance ou prennent racine.
Oui, ce n'est pas un tableau. Hein.
Oui, ce n'est pas un tableau.
Pas encore. Hein.
Ce n'est pas encore un tableau, mais ce sont tous les éléments d'un tableau. C'est comme un studio de cinéma. Non,
il y a les synapses d'un tableau.
Oui, c'est ça.
Comme dans les cerveaux. Il y a les synapses, il faut les bien lier. Il y a des liaisons différentes. Et une fois que la liaison est valable, on peut dire que c'est un travail. Mais vous m'avez demandé sur l'art conceptuel. Hein.
Oui, ça viendra plus tard.
Ah oui.
Bon. J'ai tout de même prévu un petit conducteur. Il faudra à peu près un ordre dans mon intervention. Non, là, je voudrais maintenant qu'on s'arrête un peu au conflit d'angle, peut-être.
Hein. Oui.
Juste pour montrer cette double page de l'édition oui. Martin en français, donc de Vitruve. En fait, cette question du conflit d'angle que vous avez expliqué tout à l'heure, je crois que ce n'est pas la peine de redire, c'était très clair, cette question du conflit d'angle n'apparaît que dans les 10 livres d'architecture de Vitruve. Bon, on n'a pas de source ancienne, plus ancienne que...
Oui, lui. Ça, je ne savais pas que c'était des Vitruve. Moi, j'ai trouvé ce problème très simplement dans un truc qu'on achète pour faire un voyage. Comment dit-on ?
Un guide touristique.
Un guide touristique. Et là, ils ont parlé de conflit d'angle. C'est quand même intéressant, non ? C'est des Dumont.
Dumont, c'est une maison d'édition.
Oui, qui fait que des... Non, parce que, mais qui fait aussi des guides de touristiques. Et là, j'ai trouvé ce problème sur le conflit d'angle. Mais ça, c'est plus beau, ça.
Alors, ça, c'est quand même extraordinaire, parce que ça veut dire que la question du conflit d'angle, qui est un point vraiment, j'allais dire, presque d'érudition de l'histoire de l'architecture, trouve place dans un guide touristique.
Oui.
Ça, c'est vraiment à souligner.
Et ça m'a tout de suite intéressé, ça m'a tout de suite frappé, parce que c'est comme je l'ai essayé de le décrire, ça lie toutes les autres choses qui sont pas justes, hein, parce que c'est un problème de justesse, ce conflit d'angle.
Alors, on peut avoir quelques images pour montrer, au fond, que les temples ou les dispositifs de colonnes doriques, en général, ne règlent pas vraiment la question parce que le triglyphe, comme vous le voyez ici, est chaque fois à l'extrémité. Donc il n'est pas dans l'axe de la colonne, alors que c'est le principe des triglyphes, c'est d'être soit dans l'axe de la colonne, soit dans l'axe, dans l'entraxe de deux colonnes. C'est pas ? Donc soit ici, soit là, soit là. Voilà, ça c'est la place des triglyphes. Et ici, ils vont se trouver, vous voyez, reportés complètement à l'extrémité, donc n'étant plus du tout dans l'axe de la colonne. Alors, on peut donner d'autres exemples. Il y en a quelques-uns. Là, je me suis un peu amusé avec un dispositif qui se trouve en Sicile, au temple de Ségeste. On a exactement une photo de l'angle, voilà, un triglyphe placé sur l'angle et non pas dans l'axe de la colonne. Donc ici, on a, comme ici.
Oui, je me souviens, je l'ai découvert à Ségeste.
Je savais, c'est pour ça que j'ai pris ça.
Ah oui.
C'est des photos que j'ai faites quand j'avais 20 ans.
Ah oui.
Voilà ces gestes. Et puis, peut-être on peut élargir un peu la question du conflit d'angle. Il y a un architecte qui s'est beaucoup préoccupé de ça, c'est Brunelleschi.
Ah oui. Voilà.
Alors, dans Brunelleschi, on a la question du conflit d'angle, mais qui se pose peut-être en des termes un peu différents. Mais c'est la rencontre de deux plans, de nouveau, exactement comme pour l'extérieur, mais là, ils sont rentrants. Et dans cet angle, le pilastre que vous voyez ici est plié. Il est plié en deux, le chapiteau est plié en deux. Et ici, ça, c'est très intéressant, c'est, on pourrait dire l'inverse, c'est un angle du pilastre qui est montré, avec un angle du chapiteau. C'est comme si on prenait juste cette partie-là et on la plaçait ici dans l'angle. Brunelleschi semble avoir, donc, au XVe siècle, jonglé avec ses problèmes de rencontre de plans. Et je montre simplement, je dirais presque à titre anecdotique, on en revoit ici une autre photographie. Et puis, donc, ça c'est. Voilà, ça c'est. Alors, ça c'est la chapelle des Pazzi, où on a encore une solution plus étrange, puisque le chapiteau, le pilastre, pardon, n'est pas plié en deux en son milieu. Mais seulement, ici, nous avons un tiers ou un quart du pilastre et après, le reste. C'est vraiment une façon d'insister sur la manière dont, presque d'une manière ostentatoire, je règle la question de la rencontre de deux plans. Ça, c'est encore une manière plus étrange. Toujours Brunelleschi à San Spirito, où ce sont des fenêtres qui se rencontrent dans un angle du transept. En fait, des fenêtres, deux morceaux de fenêtres qui se rencontrent là. Et puis, je me suis dit que ce serait amusant de regarder la dernière installation de Daniel Buren, puisque vous l'avez invité ici,
oui, oui.
Une installation qu'il vient de faire à Baden-Baden. Et ce que vous voyez à gauche, c'est un miroir, ça, et ça, c'est le mur. Et le conflit d'angle, il l'a réglé de la manière suivante. S'il avait poursuivi son carré vert jusque-là, nous aurions une immense surface verte. Or, l'ensemble du dispositif, ce sont des carrés. Donc, le carré ne peut apparaître individuel que s'il est arrêté avant l'angle du miroir. Ça paraît tout à fait logique, sinon ce serait le prolongement pur et simple et on n'aurait plus un carré, on aurait un grand rectangle vert. Voilà, le conflit d'angle réglé par Daniel Buren dans son installation de Baden-Baden. Voici deux images que j'ai cherchées dans Piranèse, parce que Piranèse aussi s'est préoccupé de ses problèmes, mais à travers la lecture de Vitruve et à travers la connaissance qu'il avait des temples, enfin des édifices plutôt modernes, donc la Renaissance ou l'époque baroque. Voilà ce qu'il reste de l'esthétique du dorique au XVIIIe siècle, avec un triglyphe cette fois-ci placé d'une manière canonique. Et puis, alors, ce qui est très amusant, c'est que Piranèse reconstitue mentalement et graphiquement ce qui est censé avoir été à l'origine des triglyphes et des métopes.
En bois.
Voilà, en bois. Dans une structure en bois, un quadrillage qui aurait été posé au-dessus de ces poutres, sous la charpente du toit. Et vous voyez que l'aboutissement de ces poutres correspondrait chaque fois à un triglyphe et les métopes se trouvant entre ces triglyphes. Voilà, ça, c'est une fiction. C'est une pure fiction de Piranèse. mais qui est intéressante parce que ça montre bien que cette question continuait de préoccuper les architectes et les artistes qui spéculaient sur l'architecture comme Piranesi. Alors je voudrais peut-être encore dire une chose, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ce qu'on appelle en allemand le Eckstein, donc la pierre d'angle, a aussi une signification très importante dans la, disons en gros, dans le commentaire théologique du Moyen Âge, parce que on a plusieurs textes de Raban Maure, par exemple, qui nous disent que, commentant des passages de la Bible, en particulier de Matthieu, d'un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, où il parle de le Christ, c'est la pierre d'angle qui a été rejetée et qui est devenue la pierre qui est au sommet de la construction. Voilà.
Dans la voûte. Dans la voûte, oui. C'est pas Eckstein, c'est un autre mot pour ça, non?
Oui.
Non, nicht Schlüsselstein. Schlussstein.
C'est la pierre donc, qui coiffe le tout et grâce à laquelle le tout tient.
Voilà. Cool, oui. Voilà.
Donc il y a aussi cette idée très intéressante, c'est que Eckstein est au départ plutôt la pierre qu'on rejette, celle dont on n'a pas besoin parce qu'elle est mal taillée et qui devient finalement le fondement de la communauté des chrétiens. Donc il y a là toute une symbolique extrêmement, extrêmement intéressante qu'on peut aussi rappeler à propos de cette question du conflit d'angle. J'étais aussi très frappé, alors là j'aimerais vraiment que vous reveniez là-dessus, si vous le voulez bien, par cette question du nombre pi. Oui. Parce que vous avez bien dit à un moment donné, je ne trahis pas votre formulation, que c'était une sorte d'équivalent de l'art, enfin,
oui.
C'était l'art.
Oui, parce que, alors d'abord, il faut dire pi, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui se suicidaient à cause de ça, qui ne pouvaient pas arriver, enfin, à arriver à la des richtige Zahl. Le nombre juste, on ne trouve pas le nombre juste. Alors, pour moi, c'est une métaphore de l'art, parce que les artistes, ils cherchent le nombre juste, ils cherchent le tableau final, ils cherchent la monade, ils cherchent comme il y a cette nouvelle fantastique de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu où on veut quelque chose qui est la somme de tout dans l'art, qui est le tableau final. Mais on sait qu'on n'arrive jamais. Alors c'est un peu comme ça, les mathématiciens qui cherchent enfin de trouver la chiffre, le nombre juste du pi. Parce que vous savez, le pi, on peut, si on est au millième, au milliardième après la virgule, on n'est toujours pas prêt. On s'approche toujours, mais on s'approche en permanence sans arriver. Et ça, c'est pour moi une métaphore pour l'artiste.
Mais le conflit d'angle, c'est une solution. C'est-à-dire, ça se traduit.
Non, c'est tricher. Hein.
Oui, voilà, c'est tricher. Voilà, c'est le mot que je voulais vous entendre dire.
Oui, oui.
Voilà. Donc, est-ce que dans l'art, dans le processus de création artistique, il y a cette conscience que, comme vous disiez à l'instant, ce n'est jamais une monade, mais on triche.
Oui, on triche, on fait comme si. Oui. On fait toujours comme si. Alors, il y a des artistes qui font des actions, ils font toujours comme si. Ils font des actions, l'artiste prétend toujours d'être au centre de la vérité ou d'avoir trouvé le Ding an sich, la chose en soi de Schopenhauer ou de quelqu'un d'un autre philosophe, et on cherche ça toujours mais n'arrive jamais à l'avoir. Ça c'est le pi.
En fait, dans votre conférence tout à l'heure, votre exposé, il y avait un fil rouge qui était la géométrie tout de même. Hein. On était pendant toute la...
Oui, la géométrie nous occupe toujours, voilà. Parce que nous cherchons toujours, les hommes cherchent toujours donner un ordre au monde, parce que le monde n'a pas l'ordre, il n'a pas d'ordre. On ne peut pas concevoir. Concevoir l'ordre dans le monde. Alors, par exemple, les gens, Les hommes, ils ont donné une autre au firmament. Alors, en fait, il y a la Vierge, il y a le
Krebs. Cancer.
Le cancer, il y a tout ça. Et alors, on tire des traits qui sont complètement sans sens. Hein. C'est parce que les étoiles, ils changent toujours. Ils ne sont jamais mobiles. Il y a des étoiles qui meurent. Il y a d'autres qui naissent. Et surtout, les étoiles qu'on le voit, ce ne sont pas des étoiles, ce sont souvent des galaxies ou des Sternhaufen.
Des amas d'étoiles.
Des amas d'étoiles, etc. Alors, on fait une chose absolument virtuelle, absolument künstlich, artificielle et illusoire. Et ça, c'est pour moi aussi une métaphore de l'existence humaine. On cherche toujours à faire... Et je l'ai montré là, on peut le voir dans les maisons des fous. Alors, il y a une terme, la géométrisation. Alors, il y a des malades qui ne peuvent pas peindre un être humain comme ça, comme il est. Ils sont obligés d'utiliser l'angle 3. Et ça, c'est une maladie. Alors, c'est une maladie aussi de chercher le pi final, hein, c'est une maladie. Et c'est ma réponse pour votre... Pourquoi je cherche toujours la géométrie.
C'est ça. Et alors, les chambres d'hôtel. Alors, cette géométrie-là, c'est une géométrie qui relève à la fois, je dirais, d'un ordre abstrait, qui est celui de toute géométrie, comme vous venez de le décrire, et puis d'un ordre privé.
Oui, là, il s'agit peut-être moins de l'ordre, là, il s'agit de conserver quelque chose.
De conserver quelque chose.
De conserver quelque chose. Alors, c'est paradoxe, parce qu'on ne conserve rien. Alors, ce serait mieux de prendre un parfum qu'on a utilisé dans cet hôtel, ou qu'on prend une photo, ou quelque chose, ou qu'on coupe un peu du tapis. De la moquette ou des choses comme ça, on pourrait que de faire un plan. Le plan, c'est le moins sensuel, c'est le plus abstrait, c'est ça veut dire rien, mais je l'ai fait parce que c'est comme une dose homéopathique de sensuel, même pas ça, c'est la millième position derrière la virgule.
Alors, vous avez montré au cours de vos conférences ici un certain nombre de vos œuvres. Alors, on est quand même frappé, et puis je pense qu'il y a un certain nombre de personnes dans ce public qui connaissent vos œuvres, qui les ont vues, pas simplement en reproduction. On est quand même frappé par le caractère très, souvent d'une très grande sensualité de certains de ces tableaux, c'est-à-dire ça touche les sens, on a envie de toucher, il y a une matière, des matières
oui.
extrêmement... Et alors, je suis personnellement assez troublé par ce contraste entre tout ce que vous dites sur la géométrie, cette fascination pour la géométrie, et qui est tout à fait contraire au travail que vous faites, ou en tout cas de ce qu'on en voit.
Oui, mais
il y a des palimpsestes, il y a des strates.
Mais nous sommes des êtres qui sont composés de contraire. Hein.
Oui.
Alors, je crois que chacun de nous, les artistes peut-être encore un peu plus, et c'est de contraire. Une fois, j'ai parlé ici de la guerre dans ma tête. Il y a toujours des systèmes contradictoires qui font la guerre dans ma tête. Et il y avait toujours une contradiction, un combat entre la sensualité et la géométrisation. Alors parce que nous voulons être formel ou analytique, et en même temps nous sommes des êtres avec avec les cinq sens, et ça c'est la contradiction qui joue sur les artistes, et ça c'est aussi quand vous avez commencé de parler, que vous êtes surpris que je parle toujours de l'art conceptuel, de l'art minimal aussi. Et c'est exactement dans ce domaine que je suis. Je me demande d'ailleurs si je suis pas encore assez conceptuel ou j'ai déjà dépassé la conceptualité, parce que toutes les deux choses sont vraies. Alors, je suis heureux que je ne suis pas complètement conceptuel, parce que qu'est-ce qu'on fait après qu'on a inventé le carré de Albers ou de Malevitch? Alors, Malevitch, vous savez, il a recommencé de faire des tableaux...
avec des paysans.
Figuratifs, socialistes.
Oui.
Hein,
oui.
Socialistes. Alors, le pauvre. Eh bien, et moi, je suis dans un état où je peux aller dans le tous les deux. Pour moi, c'est beaucoup mieux, parce que moi, j'ai... Heureusement, je n'ai pas fini par des lignes ou par des carrés. Et je peux aller dans toutes les deux directions. Ce qui m'est important, parce que moi, je ne crois pas... Quand on a eu la conférence sur l'évolution, j'ai dit l'art peut descendre et monter dans l'évolution. Alors, pour cette raison, je crois que l'art conceptuel ou l'art minimal, c'est pas la fin de l'art, c'est une certaine situation de l'évolution. Alors on peut descendre de nouveau, on peut monter encore, peut-être il y a encore une chose plus abstraite que l'art conceptuel, on ne sait pas encore.
Oui. Et vous avez commencé par des images assez terribles de bombardement de la Réchine.
Oui, pour moi,
c'était le chaos, ça. Là.
Non, mais pour vous, c'est terrible, pour moi, pas. Vous savez, ça dépend.
Mais les images sont terribles.
Non, pourquoi? Ce sont des amas de briques.
Oui, avec des gens qui errent au milieu des
amas. Il y a une potentialité énorme là-dedans. C'est beaucoup mieux que les maisons de Grundartzeit.
De la période Guillaume Arde.
De la période Guillaume Arde où tout est fait et c'est pas beau parfois. Alors, un amas de briques, c'est une potentialité énorme, et pour moi c'est la beauté, la pure beauté. Mais c'est aussi parce que comme enfant on prend les choses comme ils sont, comme on les voit. Oui. On ne donne pas de valeur, et un artiste devrait être loin d'être donné une valeur à quelque chose. Alors les photos là, ce sont les photos les plus beaux. Je trouve aussi les photos, vous savez, quand il y a des photos, des films de vol sur les villes complètement détruites de l'Allemagne. C'est fascinant et je trouve ça d'une beauté énorme.
Bon, ça vous répondit à ma question.
On va voir ça ensemble une fois. Hein.
Oui, oui. Oui, oui, il faudrait qu'on en discute. Alors justement, la question de la construction que vous avez abordée très vite avec les briqueteries, mm-hmm. J'ai été frappé par ça, mise en rapport ensuite avec le conflit d'angles. J'aimerais que vous me parliez peut-être un peu de ce qui est pour vous construction, de ce qui est pour vous monumentalité.
Uh-huh.
Parce que me semble que c'est quelque chose qui vous concerne vraiment.
Oui, alors monumental, c'est pas grand. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ça soit grand. Alors il y a par exemple les tableaux, les Hamana paintings de Koenig. Ils sont, je crois, 1,50 m, c'est 1,50 m, quelque chose comme ça. Ils sont vraiment monumentaux. Alors, ça dépend de la forme. Ça dépend pas, la monumentalité ne dépend pas de la, des mètres. Oui, du format, oui.
Et la construction?
La construction, il y a plusieurs aspects de la construction. D'une fois, c'est une chose pour nous perruguer, pour nous calmer. Alors, si on voit un maçon faire un mur avec des briques, ça calme tellement parce que c'est méditatif, ça avance. Alors, ça avance. On croit que si quelque chose avance, on est content. On a l'illusion d'être content parce que ça avance. Alors, et aujourd'hui, tout avance. Et si ça n'avance pas, on est inquiet. Alors, c'est un temps de l'avancement. Alors, il y a tous les deux années, il y a un nouveau truc de... Comment ça s'appelle? iPod?
Ah oui,
iPod. Tous les trucs techniques, il y a toujours une autre chose. Ça avance pour nous faire l'illusion que ça, c'est bon. Pour nous... Vous nous détournez
de la vérité, l'essentiel.
Oui, on peut dire ça. Oui, de l'essentiel. Oui, c'est ça. Oui.
pour le détourner de l'essentiel.
Oui, ça. Alors ça, c'est la construction. Mais vous avez, votre question veut dire encore une autre chose, non ?
Non, c'était construction et monumentalité.
Ah oui.
Voilà. Puisqu'à partir de cette histoire de briques, là, c'est
devenu... Oui. Et moi, j'ai fait des maisons. Alors, quand j'étais petit, quand je n'étais pas encore à l'école, j'ai pris des briques de cette maison bombardée. Et c'était le luxe total, parce qu'il y avait beaucoup de briques. Hein, alors, il y avait tout ce qu'on voulait. Et j'ai construit des maisons, même avec deux étages.
À une échelle ? Hein ? À quelle échelle ?
Que moi, je pouvais être là-dedans dans un étage.
Oui. C'était pas mal.
Oui.
Et on n'a pas de documents attestant cette
pas du tout, jeunesse. Pas du tout, parce que là, il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien, on est de pauvres.
C'était... Oui, bien sûr. Vous avez dit aussi que, ça m'a beaucoup frappé, construire, en citant Heidegger en particulier, la question de la construction et la question de la de pensée, habiter.
Oui, oui, parce que il y a une étymologie allemande. Oui. Alors, Bauen, ça vient de Buan, c'est Mittelhochdeutsch.
Non, c'est Althochdeutsch.
Du haut allemand.
Oui, oui, c'est du 11e siècle, non ? Avant, quand même, alors, avant. Bon, Buan, ça veut dire Bauen, et Buan devient, après le temps, zu wohnen. Buan, ça devient wohnen, et ça veut dire, alors, Bauen et wohnen, c'est une chose. Et je dois dire que je sens ça très vraiment directement. Alors quand je, par exemple, au sud de la France où j'ai acheté une propriété, je suis souvent allé et puis j'ai fait avec quelques pierres, j'ai fait un plan sur dans le jungle. Et puis ça c'était le plan de la maison. Alors j'étais toujours en train de construire et je pensais souvent à Heidegger parce que pour construire, c'était pour moi wohnen. Et pour moi, par exemple, une maison qui se construit, ou qui commence, où le plan commence à être réalisé, alors où on fait peut-être les tracés pour les fondations, ça, c'est le moment le plus heureux pour moi. Parce que là, tout est encore ouvert, tout est possible. Et là, il n'y a pas encore la fixation,
figé.
C'est pas encore figé. Et ça, le moment, alors ça, c'est où je me sens le plus vivant, le plus heureux, si c'est possible.
Et dans ce même texte, Heidegger parle aussi du déracinement.
Déracinement. Oui.
Alors, vous avez eu cet atelier à Bourgogne, Barjac, Croissy, tout en gardant Bourgogne, Barjac.
À Bourgogne, cette précarie, c'est maintenant, je l'ai donné, je l'ai vendu à un collectionneur, il vit là-dedans, et puis tout, j'ai quitté ça comme c'était avec les œuvres pas finies, et il vit là-dedans avec sa famille.
Bon, mais alors, est-ce que c'est cette idée aussi de déracinement, de chercher d'autres racines ou de d'établir un plan ailleurs que là où...
Oui, mais moi, je n'ai pas mes racines à un endroit. Je n'ai pas mes racines à Buchen ou Paris ou Barjac ou je ne sais pas. Mes racines, ce sont mes souvenirs. Mm-hmm. Alors, ce que je peux souvenir...
Das, was ich erinnern kann.
Ce dont je peux me souvenir... Ça, c'est sur mes racines. C'est mon pays natal, si vous voulez.
Ouais. Heimat. Pays natal, mais c'est pas vraiment ça.
Ça n'existe pas.
Il n'y a pas de traduction.
C'est mon pays vital.
Oui. Ouais. Vital.
Oui, mon pays vital. Moi, je
élan vital.
Bon. Ouais, donc c'est vrai que Heimat n'a pas vraiment de traduction, enfin d'équivalent en français.
Ouais.
Donc, cette question évoqué par Heidegger, il parle aussi beaucoup des ponts. Parce que ce qu'il donne comme exemple, en fait, c'est le pont.
Le pont,
Le pont comme construction, presque comme modèle idéal de la construction.
Oui, il parle du pont, enfin, Sprung.
Voilà.
Le Sprung, le banc.
Il
parle du banc, oui.
Et ce pont relie les rives, relie les mortels aux dieux.
Enfin,
il y a toute cette image assez belle qu'il développe autour de ça.
Oui.
Et ça aussi, ça m'a fait beaucoup penser à votre travail.
Oui.
On a aussi l'impression que très souvent, ces grands ciels, ces grandes perspectives sur lesquelles s'ouvrent certains de ses tableaux, c'est aussi un appel au Dieu à venir habiter avec nous.
Oui, et il, dans ce contexte, il parle aussi den Raum, den die uns fliehenden Götter uns gelassen haben.
Oui, l'espace.
Il faut parler dans le truc là.
L'espace que les dieux
qui ont quitté.
Non, pas dans l'esphère. Ils nous ont quitté. L'espace que les dieux nous quittant ont nous laissé.
Voilà, nous ont laissé.
Ouais, c'est ça. Et ça, il faut un bon.
C'est un peu le thème de Hölderlin, ça.
Oui, ça vient de Hölderlin. Non, vous savez, à partir de 1934, alors Heidegger, il était nazi, il était directeur de l'université, mais après un an, ça ne marchait plus avec les nazis, alors il se retournait un peu, pas vraiment, malheureusement, mais retournait, et il travaillait sur Hölderlin et sur Nietzsche. Alors il trouvait quelque chose, il disait que c'était sa niche, sa niche dans le temps.
Et son retour vers la Grèce.
Oui. Ouais. Il n'était jamais à la Grèce,
non.
Vous savez ça ?
Non, oui, il n'était jamais.
Et il n'était jamais là. Ouais. Alors ça c'est aussi...
Winkelmann non plus.
Winkelmann non plus, oui, c'est bien parce que... alors, j'aime cette idée qu'il n'était jamais en Grèce, il parle toujours de la Grèce. Alors, il n'a pas une conférence qu'il donnait où il ne parlait pas d'Anaximandre, d'Héraclite, de Démocrite, de tous les pré-Socrates, mais il n'était jamais là. Alors... C'est comme un artiste, hein. il a créé quelque chose. Au lieu de décrire, il a créé. Alors sa langue était aussi la langue presque d'un poète. C'était pas un poète, mais c'était la langue qu'il a créée. Et c'est très difficile à le lire, même pour moi, comme allemand, c'est très difficile à le lire parce que c'est une langue très à lui, très spéciale.
Oui. Est-ce qu'on peut s'acheminer vers le cahier avec les nu féminin qui posait. Et
ah oui, oui, oui. Ça, oui,
c'est
oui,
tout à fait
oui.
intéressant de revenir là-dessus.
Oui.
Que je n'ai pas oublié.
Ah oui.
parce que c'est vrai que l'idée du peintre qui peint des modèles féminins qui posent dans son atelier est liée à une idée de sensualité, d'érotisme, etc. Anselme Kiefer nous montre ces images.
Pétro. C'est une menace aussi, toujours. Oui.
Une menace pour le peintre.
Non, pour tout le monde. Parce que les femmes sont überlegen.
Supérieures.
Elles nous sont supérieures aux hommes. Les hommes sont seulement la moitié. Et pour cette raison, on a peur. Parce qu'on est toujours inférieur. Et on cherche, comme un malade, comme les malades dans les maisons des folles, on cherche une géométrisation pour le maîtriser. Et oui. Et il y a aussi l'idée de l'hôte. Sa femme devient un cristal. Hein. Alors, elle devient de sel, une statue de sel. Ça veut dire qu'elle cristallise. Elle devient un cristal. Vous savez, les cristaux, quand on les regarde sous le microscope, ils ont des formes fantastiques. Dans toutes les formes géométriques sont possibles sur les cristaux. Et oui, ça c'est l'idée.
Et donc, vous les enfermez dans des formes géométriques, en effet cristallines. Ouais. Il y a un endroit où
on a l'impression d'un éclat. Oui, j'ai travaillé beaucoup sur les femmes dans mon œuvre. J'ai fait les femmes de la Révolution, j'ai fait les femmes de l'Antiquité. Et alors, les femmes de la Révolution, c'est la même chose. C'était les femmes qui ont créé la Révolution dans les salons avec Madame Roland, Madame de Staël et toutes les femmes. Qui avait ses salons, et là on a discuté, et puis les hommes ont pris la hache.
Oui.
mais c'était les femmes, dans les femmes de l'Antiquité, j'ai fait des robes à son tête, parce que quand on étudie l'histoire, on voit beaucoup de femmes poétesses, on peut dire, non ?
Oui.
Des poétesses. Alors c'est pas seulement Sappho, il y avait beaucoup, beaucoup, mais on ne les connaît pas, on ne les connaît même pas. Parfois par les noms, on les connaît que par des cotations des hommes. Alors, quand ils ont notation des hommes, on connaît un peu de la poésie des femmes. Alors, pour cette raison, j'ai fait des femmes sans tête, hein, alors avec des symboles au-dessus.
C'était des robes, par exemple.
C'était des robes, oui, sans tête, oui.
C'est ça. Élisabeth d'Autriche aussi a joué un certain rôle. À un moment
ah oui, Élisabeth d'Autriche, c'était très fascinant, oui. Elle est une, parce qu'elle elle avait le drame entre, c'est le même, hein, elle était entre l'ordre habsbourgien dans le, comment dit-on, non, des cultes, des hofs, dans la cour, il y avait des règles, il y avait très très étroits, et elle faisait la rébellion, elle ne pouvait pas. Et c'est aussi, si on veut, la contradiction,
le conflit d'angle.
Le conflit. Non, c'est le conflit entre l'ordre et entre le chaos. Oui.
Et la folie aussi.
Oui, la folie, le chaos, oui. La témérance.
Démence.
Oui.
Eh bien,
et elle était très inspirée par des poètes, elle faisait des poésies. Elle avait un poète grec, je ne sais plus son nom, elle était son amie, et puis elle faisait beaucoup de poètes avec lui. Et en plus, elle était, quand le royaume des Habsbourgiens déclinait déjà un peu.
C'était
la fin de l'Empire, et pour cette raison, elle est aussi le signe du déclin.
Le symbole du déclin.
Le symbole du déclin, oui. Et elle était belle, elle avait des cheveux très longs, jusqu'aux chevilles, et la nuit. Il fallait suspendre les cheveux parce qu'il ne pouvait pas dormir sinon. J'ai plus beaucoup d'anecdotes, il y a.
C'est une des figures de votre mythologie, enfin d'un ensemble de figures.
Oui, c'est une figure qui existe, mais aussi qui est une figure qui a cristallisé beaucoup de choses, qui a beaucoup d'idées, de sentiments sont figés sur elle, sont connotés avec elle.
Alors, je vais peut-être vous poser une dernière question. Quelle est pour vous la place qu'occupe actuellement dans votre œuvre le livre ? Je veux dire, j'avais commencé par des livres, en montrer quelques-uns que vous aviez montrés dans cette exposition. Je voudrais savoir comment ce livre a eu un destin dans votre œuvre et ce qu'il en est aujourd'hui.
Ah oui, je continue toujours avec les livres. Je crois que 60% de mon production, ce sont des livres. Malheureusement, on ne peut pas le montrer, on ne peut plus le montrer parce qu'il y a maintenant tant de gens qui vendent les galeries. Si on les laisse tous tourner, il n'y a plus de livres. Alors, une fois, j'ai fait une exposition en Amérique et puis j'ai fait deux livres qui étaient consommés comme ça. Alors, parfois, je fais ça parce que c'est très. C'est pas bien.
C'est important de pouvoir.
Quand on fait une vitrine et le livre est là-dedans, il faut le feuilletonner.
Oui, justement.
Oui, mais le livre, c'est très important pour moi.
Et vous en faites encore comme cette bibliothèque en plomb qu'on avait vue ? Est-ce qu'il y a des ouvrages qui sont...
Oui, la dernière que j'ai faite, c'était au Grand Palais. Alors, j'ai fait un grand étage de livres. Et puis, il y avait des verres qui tombaient de là. Alors, pendant l'exposition, il y avait toujours un verre qui tombait de temps en temps. Et ça s'appelait Schwarata Kelim. Alors, ça veut dire la Bruchte Gefäße. J'espère que vous avez enfin la traduction que je veux, parce que...
Der Bruch, der quoi ?
Bruch der Gefäße.
Ah, le bruit des verres.
Non, les verres brisés, c'est un peu...
Le bruit des verres.
Bruit des verres, oui.
Le bruit des verres. Ah non, Gefäße.
Bruit des vases.
Des vases ?
Oui.
Bruit des vases. Si on s'y met à plusieurs, on va y arriver.
Oui. Bon. Ouais.
Et alors, ma question par rapport au grand livre de plomb, c'était motivé par le fait que j'aimerais peut-être quand même vous entendre parler de l'importance du matériau. Enfin, pas la signification forcément symbolique, parce que ça, je pense que c'est des choses qui parfois dépassent l'artiste. S'il ne choisit pas une chose parce qu'elle a une fonction symbolique, mais elle prend aussi une fonction symbolique parce qu'il l'a choisie.
Oui, c'est plus que symbolique. Alors, pour moi, un matériau, c'est une chose qui vit pour moi, qui a l'esprit là-dedans. Et moi, je suis celui-ci qui voit l'esprit dans le matériau et qui le décèle, on peut dire. Non. Entkleidet.
Ah, qui...
Il révèle. Ça, c'est entkleiden.
Dévêtir.
Qui le déshabille. Revêtir.
Dévêtir,
je crois que c'est le mot. Qui le dévêtit. Et alors, c'est plus qu'un symbole. Oui. C'est l'esprit dans le matériau que je. Et. Je le dévêtis.
Ouais. Conflit de traduction.
Oui.
Alors, la toute dernière question. Que représente pour un artiste comme Anselm Kiefer le fait de s'occuper, de trouver de l'ordre dans l'histoire de l'art?
Ah, mais pas seulement dans l'histoire de l'art. Alors,
Non, mais là, c'est spécifiquement dans l'histoire de l'art.
Ah, dans l'histoire de l'art, oui. Vous voulez l'ordre?
Oui.
Ah.
Non, parce que l'historien de l'art, c'est ce qu'il fait, au fond.
Mais
il essaye de projeter une vision personnelle sur des objets qui n'ont pas forcément de lien, mais qui pour lui en ont. Et c'est ça l'interprétation, c'est ça le travail de l'historien. Voilà.
Non, j'espère que j'ai fait mon histoire de l'art. Alors je lis des choses qui sont normalement pas encore liées.
Oui.
Ou comme vous avez vu aujourd'hui, je lis des choses qui sont pas normalement pas liées. Mm-hmm. Je vais être surpris. Je vais être surpris par des connexions qu'il n'y a pas encore, que je découvre ou que je crée.
Voilà. Merci.